Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous recevons Patrick Lubin. Activiste d'ATD Quart Monde et sans domicile fixe, Patrick est venu participer à une réunion à l'ONU pour y partager son vécu et son savoir afin d'apporter des réponses adaptées au fléau des sans-abri. L'occasion de l'inviter à venir témoigner dans nos studios, Patrick nous fait part de son parcours difficile et des connaissances qui lui ont permis de survivre.
Bon, c'est une longue histoire. En premier, j'ai perdu mon travail. De perdre mon travail, j'ai eu des problèmes parce que forcément, vous perdez votre logement. Du logement, j'ai dû trouver un autre logement plus petit. Et là, je suis mal tombé, malheureusement, parce que je suis tombé sur des propriétaires qui faisaient tout pour me dégoûter, me mettre à la rue. Et parce que le frère de la propriétaire voulait la grande chambre que j'avais. Et en même temps, le fils de la propriétaire était dans la drogue, il était dans les gangs et il voulait aussi prendre possession de la chambre. Et j'habitais loin des transports, c'était très difficile de pouvoir chercher du travail. Et bon, j'ai trouvé des solutions temporaires. J'ai dit, je ne peux plus marcher, c'est trop dangereux le soir. J'ai pu avoir, avec un peu d'argent, j'ai acheté un vélo. Après, bon, je me suis retrouvé forcément, comme je ne pouvais plus payer le loyer comme il aurait fallu, on en a profité pour mettre la pression sur moi, tout faire, même essayer de me tuer, c'est le cas de dire. Et j'ai dû laisser la chambre. En fin de compte, j'ai été doucement mais sûrement attiré dans la rue, quoi, parce que les gens qui devaient m'aider ne m'ont pas aidé. Les amis m'ont tourné le dos. Et en même temps, tout le temps, chaque fois, je passais des coups de fil en disant que j'ai besoin d'aide pour payer mon loyer. On me disait, mais tu sais, Patrick, si tu trouves un travail, on va te payer un mois de loyer. Ça, c'était le Secours catholique et bien d'autres organismes comme ça, organisations, aussi l'Armée du Salut. Tout le temps, on voulait m'aider, mais si j'avais un travail. Mais moi, si j'ai un travail, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne vais jamais demander à quelqu'un de l'aide si je sais que je peux subvenir tout seul. Je vais laisser l'aide à ceux vraiment qui ont besoin, parce qu'on est dans un système de vie où il y a la priorité. Et la priorité, il faut la laisser à ceux qui n'ont rien ou presque rien. Parce qu'il faut leur donner la chance de survivre et il faut encore leur tendre la main, il faut encore leur ouvrir les portes et je suis là pour ouvrir les portes. Voilà. Bien sûr, il y a eu d'autres solutions qui se sont proposées. J'ai une amie qui m'a laissé rester dans son appartement parce que je la connaissais très bien et puis elle partait dans un autre état. Après, j'ai dû laisser encore et successivement, tout le temps, ce qu'on me disait, c'est « Tu sais, Patrick, il n'y a qu'une seule solution pour toi, tu dois aller au service social. » Mais moi, je ne voulais pas y aller au service social parce que je connaissais comment c'était le service social. Alors, on m'a dit « Ouais, mais tu sais, le service social a dit quand vous êtes expulsé, vous nous donnez la lettre d'expulsion. Vous n'avez même pas besoin de rencontrer le shérif. Et à ce moment-là, on va vous aider. On va vous donner une chambre et on va payer pour votre garde-meuble. » J'ai dit « Ok. » Il m'a dit « Venez avec le papier du shérif. » Je suis allé. En fin de compte, c'était des mensonges. Ils ne m'ont pas aidé du tout. Et j'ai une amie que j'ai aidée depuis 15 ans. Elle m'a tourné le dos aussi. Elle m'a aidé un tout petit peu quelques heures. J'ai vu que j'étais indésirable. Elle faisait comme si elle ne me connaissait pas. Et bien, c'est comme ça, à la fin, que je me suis retrouvé à la rue, quoi.
C'est comment d'être à la rue? À quoi êtes-vous confronté au quotidien? C'est surtout les nuits qui sont difficiles
Oui, justement, la nuit, c'est mortel. La nuit, c'est la violence, c'est les gangs, c'est les gens qui ont bu, c'est les gens qui sont drogués, c'est les gens qui sont perdus, c'est les gens qui sont fous. C'est n'importe quoi. La nuit, en plus, il n'y a pas assez de places à New York qui sont ouvertes. Ils ont fermé de plus en plus de places parce qu'il y a ce côté de la terreur et il y a ce côté aussi que les gens qui sont dans la rue, on n'en veut pas, quoi. On n'en veut pas, la police est là, si vous vous endormez sur une chaise, même si vous ne vous endormez pas, vous fermez les yeux, on vous dit que vous devez les laisser, vous ne pouvez pas rester là, je suis désolé, monsieur, c'est même pas monsieur, c'est je suis désolé, sortez d'ici, foutez le camp, comme on dit, et voilà quoi. La nuit c'est extrêmement dur, on compte les heures, on compte les minutes et on compte surtout les secondes parce qu'on se dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'il faut tenir physiquement, mais il faut tenir mentalement. Je pense que les deux sont extrêmement important parce que moi j'ai vécu des nuits où c'était tellement dangereux, je devais marcher toute la nuit dans New York, dans Manhattan, et on sait même pas où on va parce que en une seconde vous devez changer d'endroit parce que dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui peut vous mettre votre vie en danger, vous devez partir, vous devez laisser.
Vous avez passé des nuits à ne pas dormir en fait.
Ah oui, j'ai passé à peu près 3 mois sans dormir. J'étais à Times Square parce que je pensais que c'était le seul endroit que je pouvais rester qui avait de la sécurité. Mais en fin de compte, il n'y a pas de sécurité. Même si vous voyez la police et tout ça, il n'y a pas de sécurité parce qu'il y a toujours des gens là pour vous voler, pour vous attaquer. Et puis, bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est que la nuit, à Times Square, qui est l'endroit qui est ouvert 24h/24, vous avez un Starbucks. Et dans le Starbucks, il n'y a déjà pas de chaise. Et il n'y a pas de toilette. Bon, il n'y a pas d'évier non plus pour se laver les mains. Et il n'y a pas de prise de courant pour brancher votre téléphone ou tout ce que vous avez à brancher. Vous ne pouvez rien brancher. Et c'était tout petit aussi. Et les autres, c'est les McDonald's. Et les McDonald's, la sécurité est extrêmement méchante, violente. Si vous ne consommez pas quelque chose, ils ne veulent pas que vous soyez là. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Même les Dunkin' Donuts, ils ont fermé leurs portes parce qu'ils ne veulent pas de gens dans la rue, des gens sans domicile fixe.
Et les refuges, les shelters ?
Bon, je ne veux pas aller dans les shelters parce que malheureusement, on tue, on vole, on vous fait toutes les méchancetés qu'on peut et ils vont jusqu'à vous pisser dessus, ils vont faire n'importe quoi, il n'y a pas de sécurité. Le pire, c'est qu'un shelter devrait être là pour protéger les gens justement qui n'ont pas l'endroit pour aller. Pour les peu d'affaires qui leur restent, en fin de compte, on leur vole toutes leurs affaires.
Vous avez aussi décrit les effets sur votre santé d'être sans domicile.
Oui, c'est terrible parce que le problème, c'est que quand vous ne vous allongez pas, vous avez un problème avec votre circulation du sang. Et la circulation du sang, ça vous entraîne à avoir les jambes qui enflent. Et les jambes enflent jusqu'à un certain moment où ça peut être extrêmement dangereux. Et les pieds et les jambes enflées. On va reconnaître les gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas un domicile fixe, parce qu'ils ont les jambes enflées. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi cette personne-là n'a pas de chaussures, pourquoi cette personne-là a les pieds enflés. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut s'allonger sur des cartons dans la rue, ou même s'allonger à même le sol, ou même s'allonger n'importe où sur des bancs. Parce que les gens qui sont dans la rue, ils créent des systèmes. Mais ces systèmes ne sont déjà pas agréés par la ville de New York. Et en même temps, ils violent la loi. Et en même temps, il faut voir comment... Ils sont allongés sur des choses qui sont instables. Ils peuvent même se fracasser le crâne et tout ça. C'est ça qui est super grave, en fin de compte.
Vous êtes resté longtemps dans la rue à New York ?
Bon, malheureusement, moi, j'essaye d'être... Enfin, moi, je suis toujours extrêmement positif. Je le dis pour tout le monde, même peu importe que quelqu'un soit malade, perdu son travail et tout ça. Mais je me dis que je ne dois pas penser quand est-ce que j'ai commencé à être dans la rue, mais je dois penser que je dois en sortir. Et ce qui compte, en fin de compte, moi, c'est de trouver le jour où je vais en sortir complètement. Et j'ai beaucoup progressé, mais pour la réponse à cette question, ça fait à peu près 2 ans et demi que c'est vrai que je me suis retrouvé à la rue. Comment j'ai réussi ? C'est vrai que j'ai une foi qui est énorme. J'arrive à passer des barrières que les gens ne peuvent pas passer. Peut-être que ça m'aide aussi parce qu'à la base, je suis technicien en électronique. Alors, bien sûr, j'analyse énormément. J'ai vécu beaucoup des moments difficile. J'ai quand même fait mon armée, c'était pas facile aussi. J'ai quand même eu pas mal de pratiques, mais il faut créer des stratégies, on en fait des systèmes et on les met en théorie et en pratique. Et en pratique, et ben, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Heureusement, ça passe à 95% la plupart du temps pour moi. Et c'est justement pour ça que je sais que je peux aider les pauvres, parce que si moi je peux en sortir, alors oui, il y a de l'espoir et je crois que je vais en sortir parce que je suis pratiquement au dernier niveau. Je suis en train de sortir complètement du tunnel. Quoi. J'en vois déjà la lumière.
Qu'est-ce qui vous a amené à partager votre histoire aujourd'hui, ici à l'ONU ?
Oui, cette question, elle est fantastique parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que ce que j'ai passé à travers, si je le raconte, ça peut servir à d'autres. Et ce qui est incroyable, c'est que la première fois que j'ai parlé aux Nations Unies, Guillaume, qui est le directeur de l'organisation de ATD Carmonde à New York, à Manhattan, il m'a dit, Patrick, tu sais, je sais que tu aides tout le temps les gens, que tu fais tout ce que tu peux pour eux, mais j'aimerais que tu parles de ton histoire et que tu participes. Moi, j'ai dit, mais tu sais, Guillaume, c'est extrêmement dur, parce que c'est ma vie privée. Je ne sais pas, les gens vont me juger, tout ça. Et c'est grâce à lui qu'en fin de compte, j'ai pu arriver à participer et à dire mon histoire. Moi, je pense que si on est coupable de quelque chose, à ce moment-là, je pense qu'il faut rester en dehors de s'exprimer, parce que quand on a fait quelque chose de grave, je ne pense pas qu'on doit avoir l'honneur. Mais si on est innocent, je crois qu'on doit se défendre jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Et moi, je vois des millions de gens qui sont innocents et qu'on ne fait rien. Et je suis là pour leur tendre la main, pour dire il y a des solutions. Les solutions, je vais les proposer. Mais les gens doivent savoir qu'est-ce que c'est la pauvreté. Et la pauvreté a 3 différents niveaux.
Est-ce que vous pouvez justement revenir sur vos 3 recommandations ?
Oui, bon, premièrement, si on ne réforme pas le service social, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, quand je suis le service social, j'ai dû passer une première journée. On n'avait vraiment rien à faire de moi. On ne m'a pas pris au sérieux, on ne m'a pas aidé. Au contraire, on m'a dérespecté totalement. J'ai dû revenir un deuxième jour et on n'a toujours pas pris mon dossier dans les mains. Okay, mon dossier, on ne le prenait pas dans les mains. Et il a fallu attendre à peu près deux jours entiers. C'est à la fin, je crois, il fermait vers les 5 heures. Et c'est vers les 4h30 que finalement on a pris mon dossier parce que j'ai commencé à m'énerver. Bien sûr, ça commençait à être très chaud parce que j'en avais marre. Surtout qu'on m'avait menti qu'on ne m'a pas donné ni une chambre ni payé pour mes affaires. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je suis là et que je suis très honoré, les gens, pour ouvrir un dossier, j'ai bien dit pour ouvrir un dossier, que le dossier soit accepté au niveau du service social, c'est 45 jours. Pendant 45 jours, vous entendriez parler de rien. Personne ne va vous communiquer. On vous dit, c'est même pas besoin d'appeler. On va vous écrire et vous recevrez notre réponse.
Mais comment ?
Mais voilà, le problème, c'est 45 jours. Il y en a plein qui sont déjà morts.
Mais vous n'avez pas de domicile. Comment ils vont vous envoyer une lettre ?
Oui, mais ils vont vous trouver une solution pour vous joindre d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'avais ma boîte postale. Mais justement, voilà, comment vous contacter quand vous n'avez pas une adresse ? Mais c'est pas leur problème. Okay, vous n'avez qu'à donner l'adresse d'un ami, d'une amie, de n'importe quoi, parce qu'ils ne vous appellent pas par téléphone. C'est extrêmement rare.
Et pendant les 45 jours ?
Eh bien, vous êtes dans le désert complet, quoi. Vous vivez sans eau, sans nourriture, et ils n'ont rien à faire. Alors moi, je propose que le délai soit remis en 15 jours. Je sais qu'on peut y arriver en 15 jours. Et en 15 jours, on sauvera des tas de vies et les gens n'iront pas dans le niveau 3. Les gens arriveront à survivre dans le niveau 1 ou le niveau 2, mais ils n'iront pas dans un niveau où ils vont mourir, quoi, en fin de compte.
Vous avez aussi parlé d'intégrer les connaissances, le savoir qu'ont acquis les personnes sans domicile.
Oui, effectivement, les gens qui connaissent la pauvreté, ils peuvent aider. Mais il faut encore comprendre une chose, c'est que la pauvreté, il y a différents niveaux, il y a différentes directions. Les gens vivent la pauvreté à différentes façons, mentalement et physiquement. Il y a des gens qui se laissent aller. Moi, je me bats depuis 2 ans et demi. Je me bats pour moi, je me bats pour les autres. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se battre. Et je suis là justement pour représenter ces gens-là, qui sont des millions. Que ce soit à New York, il y en a énormément. Mais moi, je représente tous les gens qui sont dans la rue au niveau mondial aujourd'hui.
Vous avez aussi souligné l'importance d'avoir l'accès à l'eau et à l'assainissement.
Oui, là, c'est quelque chose qui est très grave parce que, premièrement, on viole les droits de l'homme. Vous imaginez que quelqu'un qui n'a pas l'argent ne peut même pas aller se laver les mains. Vous imaginez que quand vous demandez un verre d'eau, on vous dit c'est 1,09 $ ou c'est 80 centimes ou je ne sais pas quoi. Moi, je dis que si les gens n'ont pas accès à l'eau ou n'ont pas accès aux douches, c'est inhumain, quoi. Et ce que j'ai vu dernièrement, je peux parler de quelque chose qui vient juste d'arriver d'ailleurs, c'est malheureux à dire, mais je suis client à Starbucks Coffee, la compagnie Starbucks. Je suis client depuis 23 ans et dernièrement, il y a un nouveau Starbucks qui a ouvert à Jamaïca, à Queens. Et je leur ai demandé, est-ce que je peux avoir de l'eau chaude pour faire mes céréales ? Et il me dit que je dois acheter quelque chose. Je lui ai dit, écoute-moi, je suis client depuis 23 ans. J'ai la carte Gold en or de Starbucks. Je peux te faire voir mon dernier reçu d'hier. J'ai simplement besoin d'eau chaude parce que je ne prendrai pas du café à cette heure-là et je n'ai pas besoin de café. Donne-moi de l'eau et puis ça s'arrête là parce que j'ai besoin d'eau chaude. Il m'a dit non, si tu n'achètes pas quelque chose, je ne te donnerai pas de l'eau chaude. Alors là, c'est grave.
C'est une façon d'écarter, c'est une façon de...
Oui, et on n'a pas le droit d'humilier un pauvre. Parce qu'un pauvre, ce qu'il faut bien comprendre, un pauvre est quelqu'un qui est dans la rue. Ils souffrent énormément. Sauf si on veut aider les gens dans la pauvreté, la première des choses, c'est jamais les humilier. Et si on leur fait du mal, ils ne vont jamais en sortir de la pauvreté. Justement, il faut leur envoyer l'espoir, il faut envoyer la tendresse, et il faut encore une fois leur tendre la main. On n'a pas le droit de laisser mourir les pauvres, on n'a pas le droit d'abandonner quelqu'un parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal la plupart du temps ? Il n'y a quand même pas que des criminels dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des criminels. Je ne suis pas un criminel.
Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas être défini en tant que personne sans domicile. Comment souhaitez-vous être défini ?
Comme un être humain, et comme un être humain qui se respecte, qui respecte les autres. Et je dirais que les riches, on a besoin d'eux, mais les riches ont besoin des pauvres, parce que nous, on connaît des solutions, que si un jour il leur arrive quelque chose, on pourra les aider. Et eux, ils peuvent nous aider aussi. Et je pense que chacun doit participer dans cette vie, parce qu'on est tous sur la même planète.
Et c'est avec le puissant témoignage de Patrick Lubin que se referme ce magazine d'escale consacré à la lutte contre le fléau des sans-abri. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.